إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission seule cette récitation de Sourat al-Kahf ainsi que l'explication de ses sens en langue française. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Donc, nous nous sommes arrêtés hier au verset 78. Et nous avons repris là du verset 79 au verset numéro 82. Dans le verset 79, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, pour ce qui est du bateau, donc il parle ici de l'Khadir, qui explique à Moussa alayhi salat wa salam les différentes situations qui sont arrivées, ce que l'on a expliqué hier. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en mer. J'ai voulu l'endommager, car il y avait sur leur route un roi qui saisissait de force tout bateau en bon état. Quant au garçon, ses parents étaient croyants et nous avons craint qu'il ne les entraîne vers sa rébellion et sa mécréance. Nous avons donc voulu que leur seigneur le remplace par un enfant plus vertueux et plus affectueux envers eux. Pour ce qui est du mur, il appartenait à deux jeunes orphelins de la cité et un trésor leur revenant se trouvait dessous. Leur père était un homme pieux et ton Seigneur a voulu qu'ils le déterrent seulement lorsqu'ils auront atteint la force de l'âge. Tout ceci par une miséricorde de ton Seigneur. Je n'ai rien fait de ma propre initiative. Voilà l'explication des agissements face auxquels tu n'as su patienter. Après que le Khadir alayhi salam et promis à Moussa alayhi salat wa salam qu'il allait l'éclairer sur la signification des choses sur lesquelles il n'a pas pu patienter, il lui a expliqué, pour ce qui est de la barque dans laquelle j'ai pratiqué une brèche, elle appartenait à deux pauvres gens qui travaillaient en mer, ce qui implique de la compassion et de la bienveillance envers eux. J'ai voulu lui donner l'apparence d'être défectueuse, parce que derrière eux, il y avait un roi qui s'emparait de toute embarcation et l'usurpait. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une barque était en bon état passée sur le territoire maritime de ce monarque oppresseur, il s'en emparait et se l'appropriait injustement. Aussi, j'ai voulu la rendre défectueuse en y pratiquant une brèche afin de la soustraire à l'usurpation de ce tyran. Quant au jeune homme que j'ai tué, il avait pour père et mère deux bons croyants. Nous eûmes peur qu'il ne les entraînât dans sa rébellion et son impiété. Il faut dire qu'il était décrété et prédestiné que si ce jeune garçon arrivait à maturité, il entraînerait ses parents dans sa mécréance, dans son impiété et sa désobéissance. Soit par amour et attachement pour lui, car comme vous savez, des enfants, des parents sont attachés à leurs enfants, soit parce qu'ils auraient eu besoin de lui. C'est-à-dire que je l'ai tué parce que j'ai été informé de cela afin de préserver la foi de ses parents croyants. Et quel avantage est plus grand que cet avantage ? Préserver la foi. En effet, même si la disparition de ce garçon sera considérée comme un préjudice par ses parents et une coupure de leur postérité, il n'en demeure pas moins qu'Allah leur donnera comme enfant ce qui sera meilleur que lui. C'est pour cela qu'il dit « Nous voulûmes que leur Seigneur leur donna à sa place un fils vertueux et plus affectueux. » C'est-à-dire un garçon vertueux, affectueux et obéissant à ses parents, car si le garçon tué avait atteint l'âge de la puberté, il leur aurait désobéi et les aurait incités à la mécréance et à la rébellion. Pour ce qui est du mur que j'ai reconstruit, il appartenait à deux orphelins de la ville et il recelait à sa base un trésor qui leur revenait, comme leur père était un homme vertueux. Et cette situation implique la miséricorde et la compassion envers eux, en raison du fait qu'ils étaient petits et orphelins. En outre, Allah tabaraka ta'ala les a protégés en raison de la piété de leurs parents. Ton Seigneur, dans sa bonté, a voulu qu'ils ne puissent le déterrer qu'à leur majorité. C'est-à-dire que c'est pour cela que j'ai démoli le mur, puis reconstruit, et je l'ai fait bénévolement, j'ai fait cela par miséricorde pour ses enfants, car Allah tabaraka ta'ala me l'a ordonné. C'est une miséricorde de la part d'Allah pour ses enfants. Je n'ai donc rien fait de mon propre chef, c'est-à-dire que ces actes-là ne relèvent pas de ma propre initiative, ni n'émanent de ma volonté, mais ils relèvent de la volonté d'Allah tabaraka ta'ala, de sa miséricorde et de son commandement. Voilà toute l'explication que tu n'as pas eu la patience d'attendre. Il y a dans ce récit extraordinaire de Moussa alayhi salatu wassalam avec Al-Khadir un grand nombre d'avantages et de règles ainsi que des principes dont nous allons mentionner certains. Parmi ces avantages, citons le mérite de la science et de la quête de la science pour et de la quête pour l'obtenir. La quête pour obtenir cette science. C'est là la chose la plus importante qui soit. Car Moussa alayhi salatu wassalam a fait un long voyage et a enduré beaucoup de difficultés en quête de la science et du savoir. Et il a renoncé à sa présence au milieu des enfants d'Israël pour leur enseigner et les exhorter. Et a choisi de partir en voyage pour acquérir encore plus de science. Il y a aussi le fait de commencer par ce qui est le plus important en priorité, puis de le faire suivre par ce qui est important, mais d'une moindre importance. En effet, l'augmentation de la science, l'augmentation de la connaissance religieuse est plus important que le fait de laisser cela en s'occupant de l'enseignement sans acquérir encore plus de science. Le mieux est de réunir entre les deux perspectives, et c'est ce qu'il y a de plus parfait. C'est-à-dire la personne, il continue constamment d'apprendre et d'enseigner. Il y a aussi dans ce récit la permission de prendre à son service un domestique, aussi bien dans la vie citadine que dans les voyages, dans le but de subvenir à ses besoins et d'aspirer au repos, comme l'a fait Moussa alayhi salatu wassalam. Il y a également le fait que celui qui voyage en quête de sciences religieuses et sciences utiles, ou de combat dans le service d'Allah ou autre obéissance, lorsque l'intérêt exige de lui qu'il divulgue le but de son voyage et son endroit, cela est plus avantageux pour lui que de le cacher et l'occulter. En effet, dans sa divulgation, il y a plusieurs avantages, notamment la préparation de ses provisions, la mise en œuvre de ses moyens avec clairvoyance, ainsi que la manifestation de la noblesse de cet acte sublime d'adoration. Comme a dit Moussa alayhi salatu wassalam, dans le sens « Je ne cesserai de marcher que lorsque j'aurai atteint le confluent des deux mers, dussé-je y mettre des années. » De même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a informé ses compagnons du but de son voyage lors de l'expédition de Tabouk, alors que d'habitude, il ne le faisait pas, et ce en fonction de l'intérêt pour l'islam. Il y a aussi le fait d'attribuer le mal ou les causes du mal à Satan, à Shaytan, en raison de sa tentation, de sa séduction et de la suggestion qu'il fait, bien que tout arrive par le décret d'Allah tabaraka ta'ala et sa prédestination, en vertu de la parole du domestique de Moussa qui dit « Et c'est certainement le démon qui m'a empêché de m'en rappeler. » Il y a aussi dans ce récit la permission pour l'homme de parler de ce qui fait partie de la nature innée de l'homme, comme la fatigue, la faim ou la soif, lorsque ceci n'est pas dit à titre d'irritation ou de rébellion envers Allah subhanahu wa ta'ala et la destinée, et que cela est sincère. En vertu de la parole de Moussa alayhi salam, cette étape nous a durement éprouvés. Il y a aussi la préférence d'avoir comme domestique ou comme employé celui qui est intelligent, éveillé et raisonnable, afin de faire les choses à la perfection. Il y a également la recommandation pour l'homme de manger avec ses domestiques à la même table et de la même nourriture que eux. Car Moussa alayhi salatu wassalam a dit « Apporte-nous notre repas », c'est-à-dire le repas que nous partagerons ensemble. Il y a aussi le fait que l'assistance est accordé à l'homme en fonction de son accomplissement des choses qui lui sont ordonnées. Et que celui qui se conforme à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala reçoit son assistance plus que n'est assisté autre que lui. En vertu de la parole, cette étape nous a durement éprouvés. C'est-à-dire quand Moussa alayhi salatu wassalam a dépassé l'endroit pour lequel il a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala, il a commencé à ressentir la fatigue. Alors qu'auparavant, il avait voyagé beaucoup plus longtemps. Et il n'a voyagé que peu de temps après avoir dépassé l'étape. Mais la fatigue, il ne l'a ressentie qu'après avoir dépassé l'objectif pour lequel il avait voyagé. On en tire donc comme profit que tant que la personne est dans l'objectif, dans son objectif, Allah lui donne l'assistance. Mais quand il dépasse son objectif ou sort de son objectif, il se fatigue et il trouve de la difficulté. Il y a aussi dans ce récit le fait que la science qu'Allah enseigne à ses serviteurs est de deux types. Une science acquise que l'homme obtient par ses efforts et son abnégation, et une autre science donnée en cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il donne à qui il veut parmi ses serviteurs pieux qui le méritent. Ce que l'on pourrait appeler la clairvoyance. Et c'est pour ça que l'imam Malik a dit que la science est une lumière qu'Allah met dans le cœur d'un serviteur. Et ceci dans le sens de la parole où Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Et à qui nous avions enseigné une science émanant de notre part. » Il y a aussi dans ce récit la règle de bienséance à laquelle il faut s'astreindre avec son enseignant en utilisant les propos les plus courtois en vertu de la parole de Moussa alayhi salatu wassalam, puis-je te suivre pour que tu m'enseignes un peu de la sagesse à laquelle tu as été initié. Il a utilisé un ton de courtoisie et de conseil en lui demandant s'il acceptait ou non de lui enseigner un peu de ce qu'il avait comme sagesse, en lui avouant qu'il était prêt à être son élève, contrairement à ceux qui font preuve d'arrogance et de suffisance à ce sujet, en évitant de montrer qu'ils ne savent pas à leur enseignant, Ou quand les gens posent des questions en disant « Oui, je connais, mais est-ce que tu peux me rappeler ?»« Au fait, il y a une petite chose que je ne me rappelle pas. »« Non, je suis ignorant. Est-ce que vous pouvez m'enseigner ?» L'arrogant, il n'apprendra jamais. En montrant à leur enseignant qu'ils ne sont pas dans la nécessité d'apprendre auprès d'eux, mais ils prétendent être au même niveau et coopérer avec leur enseignement, on va faire des échanges, on va discuter, on va débattre, voire même donner leur avis et leur enseigner, alors qu'ils sont dans une ignorance complète. Aussi, se montrer humble devant son maître ou devant son cheikh ou devant son enseignant et montrer son besoin d'apprendre auprès de lui est la chose la plus utile pour l'élève. Il y a aussi dans ce récit la preuve de l'humilité d'une personne supérieure envers celui qui est inférieur à lui pour apprendre auprès de lui. Car Moussa alayhi salatu wassalam, sans nul doute, est supérieur à Al-Khadir. Malgré cela, il a été humble, il s'est rabaissé devant lui pour apprendre la science, alors qu'il est supérieur à lui. C'est un prophète choisi parmi les prophètes d'Allah, un messager parmi les 5 meilleurs messagers que cette terre ait porté. Moussa alayhi salatu wassalam fait partie des 5 meilleurs hommes que cette terre ait porté. Un prophète messager à qui Allah a parlé. Malgré cela, il a fait preuve d'humilité pour apprendre une science qu'il ne connaissait pas. Il y a aussi une preuve que le savant illustre dans la science, qui ne possède pas certaines sciences dans certains domaines, peut aller apprendre ces sciences dans ce domaine qu'il ne possède pas auprès d'un savant dans ce domaine. Même si cette personne chez qui il va apprendre est inférieure à lui dans la science, dans la piété. En effet, Moussa alayhi salatu wassalam, qui fait partie des messagers doués de fermeté, et choisi par Allah, et à qui Allah a accordé comme science ce qu'il n'a accordé à personne autre que lui. Cependant, dans ces points précis, dans cette science particulière, Al-Khadir avait plus de connaissances que lui. C'est pour cela qu'il a insisté pour apprendre auprès de lui, car il avait la valeur de la science et de la connaissance. Ce faisant, il ne sied pas aux savants du fiqh, aux jurisconsultes, ou aux traditionnalistes, les savants du hadith. Lorsqu'il n'est pas connaisseur d'un domaine dans la grammaire, par exemple, dans le nahw, ou dans une autre discipline qu'il ne maîtrise pas, de donner leur avis, mais ils reviennent pour cela auprès des savants spécialistes dans ce domaine. Et ceci est vrai dans tous les domaines de la science religieuse. Et même si la personne chez qui ils vont apprendre cette science est moins savant qu'eux de manière générale, dans la science du fiqh, dans la science de l'aqida, dans la science du hadith par exemple, il est moins savant qu'eux. Mais il maîtrise la science de la langue arabe par exemple, mieux qu'eux. Alors il n'y a aucun mal à revenir vers lui et profiter de sa connaissance de la langue arabe. Il y a aussi dans ce récit l'attribution de la science et des autres faveurs à Allah subhanahu wa ta'ala. À Allah subhanahu wa ta'ala. En reconnaissant cela et en rendant grâce à Allah en vertu de sa parole pour que tu m'enseignes un peu de la sagesse à laquelle tu as été initié. C'est-à-dire qu'Allah t'a enseigné. Il y a aussi dans ce récit le fait que la science utile est toute science qui guide vers le bien. Ainsi, toute science impliquant la guidance et la bonne direction vers la voie du bien ou une mise en garde contre le mal ou un moyen contre le mal fait partie de la science utile. En dehors de cela, toutes les autres sciences sont soit préjudiciables, soit inutiles. Il y a aussi le fait que celui qui n'a pas la force de patienter en compagnie d'un savant et dans la quête de la science en étant ferme en ce sens, une grande part de la science lui échappera. Celui qui ne patiente pas les difficultés pour pouvoir accéder à une personne de science ou parfois la dureté d'un professeur alors il ne profitera de rien. Aussi, celui qui n'a pas de patience ne peut pas acquérir de la science. Par contre, celui qui fait preuve de patience sans se décourager acquiert tout ce à quoi il aspire en vertu de la parole de l'Khadir qui disait à Moussa qu'il ne pouvait faire preuve de patience avec lui. Il y a aussi dans ce récit le fait que la plus grande cause d'obtention de la vertu de la patience est que l'homme ait une grande connaissance et expérience de la chose pour laquelle il lui est ordonné de faire preuve de patience. Sinon, celui qui ne connaît rien d'une chose ou dont il ne connaît ni le but ni le résultat, ni son utilité ou ses conséquences, celui-ci ne possède pas la cause de la patience. En vertu de la parole, comment pourrais-tu assister sans manifester ta curiosité à des choses dont tu ne saisiras pas le sens? Il y a en fait, dans cette parole, la cause qui est citée par laquelle une personne ne patiente pas. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'objectif, ni les causes, ni le pourquoi, ni le comment. Donc la méconnaissance d'une chose à laquelle il aspire le pousse à ne pas patienter. Il y a aussi l'ordre de faire preuve de circonspection et de fermeté et de ne pas se hâter et s'empresser à donner un jugement avant de connaître les tenants et les aboutissants des choses. Il y a aussi le fait de subordonner les choses futures qui ont trait aux actes des hommes à la volonté divine, et que l'homme ne doit jamais dire d'une chose qu'il va la faire dans le futur sans y ajouter « Inch'Allah » si Allah le veut. Il y a aussi le fait que la résolution de faire une chose et l'intention ferme de la faire ne veut pas dire qu'on va pouvoir l'accomplir. Comme Moussa alayhi salatu wassalam qui a dit « Tu me trouveras, Inch'Allah, un homme toujours patient ». Donc il avait cette résolution, cette intention ferme de le faire, mais il n'a pas pu l'accomplir. Il y a aussi le fait que lorsque le maître et le cheikh ou l'enseignant voient que l'intérêt exige de dire à l'élève de ne pas poser de questions, qu'il s'abstienne de poser des questions, car il est au début de son enseignement, il a besoin de se taire et d'écouter. Ou bien qui lui interdisent de poser des questions dans des sujets précis, parce qu'il voit qu'il est encore faible dans sa compréhension, ou que ce n'est pas le moment de lui expliquer ses points en détail. Ou bien qu'il voit pour X raisons qu'il lui interdisent de poser des questions ou de parler de certains sujets, c'est pour l'intérêt de l'élève. C'est pour l'intérêt de l'élève. Et malheureusement, beaucoup d'élèves sont empressés, ils veulent tout comprendre, alors qu'ils n'ont même pas les bases, des bases pour comprendre quoi que ce soit parmi les sujets sur lesquels il y a des divergences, par exemple. Oui, mais pourquoi ils divergent sur tel sujet? Oui, mais pourquoi tel il dit c'est la vie? Et pourquoi? Comprends déjà les bases de ta foi, les bases de la pratique d'une manière simplifiée, puis en prenant des cours, en évoluant dans la science, dans la langue arabe, dans les sciences du Coran, dans les sciences du fiqh, dans les sciences de la aqida, dans les sciences du hadith, en évoluant dans la science religieuse, tes yeux vont s'ouvrir de plus en plus et tu vas comprendre de mieux en mieux. Et il y a des sujets que tu seras apte à comprendre que tu ne pouvais pas comprendre au début de ta demande. Aussi, la sagesse de la personne de science est qu'il n'explique pas trop en détail des sujets qui sont trop compliqués pour le commun des gens. Il se suffit de leur donner la réponse. C'est licite. C'est illicite. Point. S'il cite un verset, un hadith, un dalil avec, c'est bien pour tranquilliser les gens avec la preuve, pour leur donner l'éducation de les attacher toujours à la preuve. Mais il ne rentre pas dans des explications trop détaillées qui dépassent l'entendement et la compréhension de la majorité du commun des musulmans. Il y a aussi dans ce récit la permission de prendre la mer dans des situations où on ne craint pas pour sa sécurité. Il y a aussi dans ce récit le fait que l'homme n'a aucun reproche à se faire lorsqu'il oublie, que ce soit dans des oublis vis-à-vis d'Allah ou vis-à-vis des hommes. Il y a aussi le fait que l'homme doit savoir pardonner aux gens leur comportement et ne pas les charger de ce qu'ils ne peuvent supporter ou qui peut les gêner, car cela est de nature à les dégoûter et à les faire fuir de lui. Bien plus, il doit opter pour ce qui est facile afin de faire passer plus facilement son message. Il y a également le fait qu'il est obligatoire de juger les choses selon leurs apparences. Les règles de ce bas monde leur sont appliquées en conséquence, que ce soit pour le bien, les crimes de sang et autres. En effet, Moussa alayhissalam a contesté le Khadir, le fait d'avoir pratiqué une brèche dans la barque et d'avoir tué le jeune garçon. Car ces choses-là sont blâmables. Et Moussa ne pouvait se taire en les voyant se produire. Même s'il n'était pas en compagnie de le Khadir, il lui est obligatoire d'agir. Il est prophète et messager. Ces choses sont haram, sont illicites, sont des injustices. C'est pourquoi il s'est hâté de les contester sans prendre en considération le fait qu'il lui imposait de faire preuve de patience et de ne pas juger hâtivement. On trouve aussi dans ce récit cette sublime règle de jurisprudence qui veut qu'un grand péché peut être repoussé par un petit péché en comparant les deux avantages pour écarter le moindre et opter pour le plus grand des avantages. En effet, tuer le jeune homme est un mal, mais le laisser subjuguer ses parents et leur faire abandonner leur religion est un mal encore plus grand. Laisser le jeune garçon en vie et l'épargner, même s'il pense que c'était un bien, n'est rien en comparaison de la préservation de la religion et de la foi de ses deux parents. C'est pour cela que le Khadir, par ordre d'Allah, l'a tué. Il y a au-delà de cette règle un grand nombre de questions subsidiaires et d'avantages qu'on ne peut cerner. Aussi, l'opposition entre tous les avantages et les nuisances entre dans cette règle. On y trouve également cette grande règle qui veut que la disposition de l'homme des biens d'autrui lorsqu'il s'agit de la recherche de l'intérêt et de la dissipation d'un tort est permise, même sans la permission du propriétaire, même sans la permission du propriétaire de ses biens, et même si cela entraîne une perte partielle de ses biens. C'est ainsi que le Khadir a rendu la barque inutilisable pour la soustraire au roi injuste qui accaparait les biens des gens. Ce faisant, s'il y a un incendie, une inondation ou autre dans la maison de quelqu'un ou dans ses biens, et que la perte d'une partie de ses biens et ou la démolition d'une partie de ses biens, de sa maison, peut sauver le reste, il est permis, voire nécessaire, à l'homme de faire cela pour préserver les biens d'autrui et même sans sa permission. Il en est de même lorsqu'un tyran veut prendre les biens d'un autre et que quelqu'un lui donne quelques biens pour sauver le reste. Cet acte est permis même sans l'autorisation de la personne qui possède ses biens. Parce que l'objectif est de lui préserver ses biens. Donc on sacrifie une partie pour garder le reste. Il y a aussi le fait que le travail de la mer est permis tout comme il est permis de travailler sur terre. En vertu de la parole, elle appartenait à de pauvres gens qui travaillaient en mer. Leur travail en mer n'a pas été contesté. Il y a aussi le fait que le pauvre peut être pauvre malgré qu'il possède des biens. Et il peut avoir des biens, mais qu'ils ne lui suffisent pas, tout en étant appelé pauvre. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que ces pauvres gens avaient une barque. Donc ils possédaient des choses. Mais ce n'était pas suffisant et cela ne les faisait pas sortir de la pauvreté. Il y a aussi le fait que le meurtre fait partie des plus grands crimes. En raison de sa parole concernant la mise à mort du jeune garçon, ne viens-tu pas de commettre une chose abominable, affreuse ? Il y a aussi le fait que la mise à mort selon la loi du talion n'est pas contestable, al-qisas, c'est-à-dire quand une personne a tué une personne et qu'il est jugé par le juge en terre d'islam coupable, la famille de la personne morte peut demander le qisas, la loi du talion, qu'il soit exécuté. Ceci n'est pas une injustice. Car la parole de Moussa alayhi salatu wassalam concernant la mise à mort du garçon a dit « Ne viens-tu pas de commettre une chose affreuse ?» Et après il a dit « Qui lui n'a tué personne ?» Qui lui n'a tué personne. Donc s'il avait tué une personne et il aurait été jugé coupable, il aurait pu mériter la mort. Par loi du talion, al-qisas. Ce qui est appelé en langue arabe par al-qisas. Il y a aussi le fait que l'homme vertueux est protégé par Allah dans sa personne et ses enfants. On y trouve aussi le fait que le travail au service des hommes vertueux ou de ceux qui les concernent est meilleur qu'avec autrui. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que la cause de la découverte de leur trésor et de la restauration du mur est que leur père était un homme vertueux. Il y a aussi le fait d'utiliser la politesse avec Allah dans ses paroles et dans ses expressions. En effet, Al-Khadir alayhi salam a attribué la pratique de la brèche à sa propre personne en disant « J'ai voulu lui donner l'apparence d'être défectueuse. » Quant au bien, il l'a attribué à Allah en disant « Ton Seigneur, dans sa bonté, a voulu qu'il ne puisse le déterrer qu'à leur majorité. » C'est ainsi qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit dans le sens de sa parole « Lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. » De même que les djinns ont dit « Aussi, ne savons-nous guère si les habitants de la terre sont voués au malheur ou si leur Seigneur veut les mettre sur la voie du bonheur. » Tout ceci, bien que tout soit soumis au décret d'Allah et à sa prédestination. Mais c'est une politesse avec Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas lui attribuer le mal, mais de ne lui attribuer que le bien. Il y a aussi le fait que l'homme ne doit jamais quitter son compagnon en quelque circonstance que ce soit et laisser sa compagnie tant qu'il n'a pas essayé de le corriger en lui faisant des reproches et tant qu'il ne s'est pas excusé, n'a pas exprimé la cause pour laquelle il le délaisse et il arrête d'être en sa compagnie. Comme l'a fait Al-Khadir alayhi salam avec Moussa alayhi salam. Il y a également le fait que la conformité de l'homme avec son compagnon dans les choses qui ne sont pas interdites est de nature à perpétuer leur amitié et la renforcer. Tout comme le manque d'accord est la cause de la séparation entre eux. Il y a également dans ce récit le fait que ces choses accomplies par Al-Khadir sont des miracles décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala qui se sont manifestés à travers la personne de ce saint homme prophète afin que les hommes déduisent les subtilités de la compassion d'Allah dans ses jugements et qu'ils sachent qu'Allah décrète à ses serviteurs des choses qu'ils détestent, qu'ils abhorrent, alors que c'est dans l'intérêt de leur religion, comme c'est le cas pour le jeune garçon, ou que c'est dans leur intérêt profane dans la vie mondaine, comme c'est le cas des personnes de la barque. Il leur montre des exemples de sa compassion et de sa générosité, afin qu'ils agissent en connaissance de cause et qu'ils soient satisfaits des décrets d'Allah tabaraka wa ta'ala qui leur sont pénibles. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.